Vieille Radio, le magazine féminin nouvelle génération. Hey, un petit carrot, hang it up, daddy, or you'll be alone in a quick. Hang up the tick habit, hang it up, daddy, or you'll never get another fix.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Marine, bienvenue dans Yeg Radio, l'émission féminine nouvelle génération. Vous le savez, l'actualité rennaise bouillonne et les femmes participent activement à cette ébullition. On vous le dit, on vous le répète chaque semaine. L'info rennaise au féminin, c'est sur yegmag.fr au quotidien. C'est sur ce site que vous pouvez découvrir votre dernier numéro d'Yeg, dans lequel la rédaction a consacré un dossier de 7 pages à la vie des migrantes à Rennes. Et cette semaine, Yeg Radio dédie cette émission à ce thème. Alors celle qui est à mes côtés chaque semaine connaît bien le sujet pour y avoir participé le mois dernier, c'est Marie Lelevier, journaliste pour Yeg. Bonjour Marie.
Bonjour Marine.
Tu vas nous parler d'une femme qui aide les migrantes.
Exactement, d'une assistante familiale qui exerce depuis plus de 7 ans et qui accompagne et loge des migrants chez elle.
D'accord, on va voir ça tout à l'heure. On aborde dans le dossier une association qui participe à l'accompagnement des migrants et des migrantes à Rennes et qui intervient justement dans le centre de rétention administrative de Saint-Jacques-de-la-Lande. Charlotte Joyot, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes salariée de la CIMADE et vous allez nous parler des conditions de rétention à Rennes dans un instant. On commence sans plus tarder par vous détailler le sommaire de cette émission spéciale migrante. Cette semaine, on s'intéresse au parcours des migrantes. On parle avec Charlotte Joyot du rôle de la CIMADE, association qui a consacré son édition de Migrants Scène aux femmes et qui intervient dans le centre de rétention de Rennes. Et enfin, on dressera le portrait de Laetitia, une Rennaise qui accueille à son domicile les migrants et les migrantes. Alors, chaque année, le nombre de demandes d'asile augmente en France. En 2012, plus de 60 000 demandes ont été déposées, ce qui place la France au second rang des pays destinataires des demandeurs d'asile au niveau européen. Les femmes sont devenues le nouveau visage de la migration. Aujourd'hui, femmes isolées ou accompagnées de leur famille, elles constituent 49% des migrations mondiales et près d'un tiers des demandeurs d'asile en France. Alors qui sont ces femmes et comment vivent-elles ? Yeg est allée à leur rencontre. Sur les 800 demandes d'asile déposées chaque année à la préfecture d'Ille-et-Vilaine, seulement un quart obtiennent une réponse favorable. Les autres disposeront d'un mois pour quitter le territoire français, après réception d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Ils doivent prouver les pressions subies dans leur pays, rédiger leur récit de vie, aller à un entretien avec un officier de protection de l'OFPRA. C'est ce que nous a expliqué Armel, membre de l'association rennaise « Un toit, c'est un droit ». En moyenne, les migrants doivent patienter 18 mois avant d'obtenir une réponse. Dans le squat de l'église Saint-Marc, ouvert en mai près de Rennes, à Rennes, près de la dalle Kennedy, les 130 occupants ont tous été déboutés et procèdent alors à un recours juridique. D'origine mongole, arménienne, géorgienne, congolaise, libyenne, tchadienne, des nationalités très représentées à Rennes, albanaises, serbes ou encore tchétchènes, ils vivent en communauté dans ce bâtiment. Au fond du couloir vit la famille de Mariam, une kurde arménienne, mariée à un kurde géorgien. Sa fille et son fils, tous deux d'origine géorgienne, sont à Rennes, une situation complexe pour elles qui ne pouvaient obtenir des papiers en Géorgie. En mars 2012, ils quittent leur pays pour des raisons économiques et souhaitent venir en France en passant par la Pologne. Les autorités polonaises prennent leurs empreintes et, nous dit Armel, leur font signer une demande d'asile sans qu'ils en aient conscience. Elle poursuit. Ceux qui entrent par un pays de l'espace Schengen sont appelés les Dublin. Pour cause, le règlement de Dublin 2 vise à établir une base de données biométriques permettant ainsi aux autres États membres de vérifier qu'aucune demande d'asile n'a été effectuée par les ressortissants. Après 18 mois sur le territoire, une nouvelle demande d'asile peut être déposée en France. Mariam peut enfin remplir la sienne ainsi que chaque membre de sa famille. Elle a 3 semaines pour rédiger son récit de vie, un travail compliqué pour cette mère de famille. Ça fait ressortir les mauvais souvenirs, dur d'y repenser, surtout pour mon fils, il est nerveux, nous confie-t-elle. Dans la cuisine, nous rencontrons Alba, 21 ans. Cette tchadienne est arrivée en France en 2009, à Angers, au sein d'une communauté tchadienne dans laquelle elle vit avec son conjoint, à la suite d'un mariage forcé à 15 ans. Là-bas, tout le monde trouve ça normal et moi, je n'ai jamais accepté ce mode de vie. Les femmes ne peuvent rien faire, explique-t-elle. Elle décide de quitter son mari, parti du Tchad pour des raisons politiques, et se retrouve confrontée non seulement à la violence conjugale, mais aussi aux pressions de son entourage. Elle prend le bus jusqu'à Rennes, s'inscrit en CAP cuisine à Dinard, et revient à Rennes en juin dernier pour poursuivre ses études. Sa demande d'asile est compliquée, et plusieurs procédures plus tard, elle pense obtenir des papiers. Mais la préfecture l'informe qu'elle recevra prochainement une OQTF. « Au final, je suis une clandestine, j'ai tout perdu ». Le travail est un enjeu majeur pour les migrants, fondamental même, comme pour tous les occupants roumains du squat de Chantepi, ouvert au mois d'août dans une ancienne ferme. Une autre problématique, puisqu'ils sont européens et bénéficient du droit de résider sur le territoire français pendant 3 mois. Pour avoir un titre de séjour, il faut avoir un contrat de travail. Pour le contrat de travail, il faut un titre de séjour, déclare Emilia, qui est à Rennes depuis 4 mois. Pour vivre, ils font la manche durant la journée, ce qui reste nettement insuffisant pour subvenir à leurs besoins. Dans le squat, tous espèrent voir leur situation s'améliorer à partir de janvier 2014. Les ressortissants roumains et bulgares devraient à cette date pouvoir accéder à l'emploi dans les pays de l'Union européenne sans titre de séjour. Une date qui inspire de l'espoir pour les uns, de l'inquiétude pour les autres. En effet, le squat de l'église Saint-Marc devrait être évacué à cette période. Une situation catastrophique selon Armel qui nous dit « Ils vont être isolés un peu partout dans le département. C'est ce que souhaite la préfecture. Ça rend le problème moins visible, moins médiatisé. » Plus d'informations, bien évidemment, à retrouver sur yegmag.fr. Alors, elle parle de la route dans sa chanson « La marée haute ». Il s'agit de Lassa, une chanteuse américano-mexicaine qui a vécu au Québec. Sa musique et ses textes sont métissés. On vous laisse découvrir Lassa. Bonne écoute sur Yeg Radio.
La route chante quand je m'en vais. Je fais 3 pas. La route se tait. La route est noire à perte de vue. Je fais 3 pas. La route n'est plus sur la marée haute. Je suis montée, la tête est pleine, mais le cœur n'a pas assez. Sur la marée haute, je suis montée.
Lassa avec la marée haute. Moi, je la trouve très émouvante, cette chanson. En tout cas, c'est un hommage à cette chanteuse décédée en 2010. Elle représentait bien dans sa musique, en tout cas, le mélange des cultures, le métissage culturel. Charlotte Joyot, vous êtes salariée de la CIMAD. Vous intervenez auprès des migrants et des migrantes dans le centre de rétention de Rennes, enfin de Saint-Jacques-de-la-Lande précisément. Alors la CIMAD est une association nationale. Alors avant de parler de votre rôle au centre de rétention, expliquez-nous quelles sont les missions justement de la CIMAD.
Alors la CIMAD, comme vous l'avez précisé, est une association qui a une couverture nationale. C'est des statuts qui ont été déposés dès le début des années 40 et la vocation est d'assurer une mission de solidarité active auprès des migrants. Cette solidarité, elle se manifeste à travers différents domaines d'accompagnement, d'intervention. Donc comme vous en avez parlé tout à l'heure, on est à l'initiative d'événementiel pour essayer de sensibiliser un petit peu le tout à chacun avec la thématique des migrants, par le biais par exemple d'organisation de festivals, comme ça a été le cas là au mois de novembre où l'association La CIMAD a au niveau national organisé différents événements autour de la thématique de la femme.
Exactement, et ça s'appelait Migrant Scène, donc voilà. Le festival Migrant Scène.
Donc ça s'accompagne de projections de films ou de différentes installations, comme ça a été le cas là à Rennes, pour essayer de sensibiliser un petit peu les gens, qui s'approprient un petit peu le ressenti, le vécu des femmes migrantes. Donc il y a ce domaine de champ assez culturel large. Il y a des domaines beaucoup plus spécialisés qui vont être sur un accompagnement juridique.
D'accord.
Alors du coup, et à l'extérieur, c'est-à-dire pour des personnes qui n'ont pas forcément accès à des avocats, où là du coup on fait des permanences d'accueil, d'orientation. Et on a aussi un accompagnement juridique dans les lieux d'enfermement, donc le centre de rétention où j'interviens moi par exemple, mais également dans les prisons.
D'accord. Alors je reviens du coup sur Migrant Scène. Donc là, vous avez fait une édition sur les femmes et les migrations. Pourquoi justement les femmes ? Est-ce que c'est vraiment, on parle beaucoup du nouveau visage de la migration en parlant des femmes, alors qu'on sait quand même que depuis les années 90, il y a énormément de femmes qui prennent les routes de l'immigration.
Tout à fait.
Pourquoi est-ce que maintenant, elles deviennent le nouveau visage de la migration ?
Parce que de plus en plus, c'est méconnu. Et de plus en plus, on parle toujours du migrant, du clandestin. On parle rarement de la clandestine et de toutes les difficultés qui sont inhérentes même à la condition d'être femme et de se retrouver avec des difficultés liées à la migration, donc tout ce qui est en termes de voyage, et sur la perception aussi de la femme en tant que migrante. Ça, c'est des choses dans l'univers commun de la représentation du sans-papier qui sont mal perçues.
Pas forcément. Ouais. D'accord. Donc on va, enfin, qui sont mal perçus dans le sens, on pourrait leur reprocher d'être, enfin, de se dire en tant que femme, vous ne pouvez pas.
Non, c'est simplement que le parcours migratoire est semé d'embûches, en particulier lorsqu'on est une femme, parce que sur les questions de sécurité, sur énormément de choses, et c'est des choses dont on ne parle pas la plupart du temps.
Donc, d'accord. Et alors justement, pour Migrant Scène, donc, qui a fait une escale à Rennes fin novembre, comment ça a été reçu ? Comment vous ressentez les gens justement ? Est-ce que c'est compliqué de sensibiliser le grand public à cette thématique ?
Globalement, ce qui est le plus compliqué, c'est de casser les préjugés, les préconçus. Sur Rennes, on a eu un bon accueil avec des gens curieux, des gens demandeurs, des gens qui posaient des questions. En ayant vraiment du coup ce type d'événement nous permet de toucher un petit peu tout le monde, pas forcément les personnes qui sont déjà sensibilisées sur le terrain, sachant que dans le cadre de nos activités de sensibilisation, on fait aussi beaucoup de choses d'animation auprès des scolaires, avec des jeux de rôle par exemple, ou des jeux de plateau. La CIMAD a inventé un jeu qui s'appelle le jeu des migrants, qui est une autre façon pour tout le monde de s'approprier la chose. À Rennes, l'édition Migrant Scène, je pense qu'on peut dire que ça a été un succès.
Oui.
Y a eu un concert d'une jeune femme brésilienne.
Oui.
Y a eu une installation par l'association Étrange Miroir, qui était un système de paroles que les gens écoutaient au fur et à mesure. Ça a plutôt bien marché et ça a suscité pas mal de réactions, ce qui était le but recherché notamment.
Oui, c'était quand même assez fort. Enfin, il y avait des témoignages assez poignants, même assez féministes. Quoi. La thématique avait été aussi
choisie
comme ça, en féministe. Alors justement, on parlait des idées reçues. J'imagine que dans les centres de rétention, on se fait pas mal d'idées reçues aussi sur ce milieu-là. Alors, comment ça se passe justement pour vous, donc pour la CIMAD ? Alors déjà, expliquez un petit peu le fonctionnement. Les centres de rétention ont tous une association qui aide les migrants ?
Alors, je vais le faire en résumé. Dans chacun des centres de rétention qui est présent en France, il y a une présence d'une association civile pour assurer une mission d'aide à l'exercice effectif au droit. C'est-à-dire que dans un centre de rétention, donc faut se représenter ce que c'est un lieu d'enfermement où sont placées les personnes par décision de l'administration, la préfecture, et un centre de rétention a vocation à être le lieu où les personnes restent enfermées, selon les textes, le temps strictement nécessaire à leur éloignement. Donc ça implique pas mal d'étapes en termes de parcours, ça implique un imbroglio juridique assez compliqué. Et donc par décision du Conseil d'État, il y a une mission d'information et d'aide à l'exercice effectif au droit qui est confiée aux associations pour que les personnes puissent s'approprier leurs droits, les comprendre, ce qui est loin d'être évident, et voir un petit peu comment réussir à se défendre.
D'accord. Alors dans le centre de rétention de Rennes, est-ce que les femmes sont très présentes ?
Globalement, non. Ce qui se retrouve un petit peu au niveau national, on a un pourcentage qui est assez faible de placement de femmes, mais qui reste néanmoins présent.
Mais qui existe.
Voilà.
Alors comment on explique qu'elles sont une minorité dans les centres de rétention ? Est-ce que c'est parce que les femmes vont pouvoir plus accéder aux demandes d'asile ?
Non, parce qu'en fait, il faut... Alors ça, c'est un biais. Quelqu'un qui est sans papier n'est pas forcément demandeur d'asile. Donc c'est vrai que par habitude de langage, on parle souvent de sans papier, demandeur d'asile. C'est pas vraiment le cas. Au centre de rétention, on a effectivement des personnes qui sont déboutées des procédures d'asile, mais on a aussi des personnes qui sont déboutées de démarches autres, qui vont être des demandes de titre de séjour pour soins ou ce genre de choses, par exemple.
D'accord.
Après, la raison pour laquelle il y a moins de femmes, je ne sais pas ce qu'il y a à la motivation des agents interpellateurs, donc j'aurais des difficultés à vous dire ça.
D'accord. Et alors, concrètement, dans le centre de rétention, ça se passe comment ? Les femmes ont un bâtiment pour elles ?
Oui. En fait, il y a... Donc le centre de rétention a une capacité d'accueil de 58 hommes plus 12 places pour femmes et familles. C'est-à-dire que le centre de rétention de Rennes a notamment ce triste privilège de pouvoir accueillir des familles, c'est-à-dire avec enfants mineurs. C'est le seul lieu actuellement en France où un enfant mineur peut être enfermé comme ça. Sachant qu'en plus, l'enfant n'existe pas, juridiquement parlant, il n'est que accompagnement de parents.
D'accord.
Donc ça, c'est la première chose. Et effectivement, il dispose d'un bâtiment de vie qui est légèrement séparé des hommes, ce qui fait qu'elles peuvent préserver une certaine intimité en restant dans leur bâtiment, tout en ayant accès à une espèce de cour commune, avec de l'herbe, ce genre de choses. Par contre, les repas sont pris en commun.
D'accord. Alors comment elles vivent et ressentent cette rétention, en fait, vu qu'on ne parle pas d'emprisonnement, mais de rétention ?
C'est vécu pareil. Hein.
J'imagine.
Concrètement, quand on a des personnes qui arrivent au centre de rétention, hommes ou femmes, bien souvent, les personnes... dans leur premier cri de désespoir, c'est « mais pourquoi je suis là, j'ai rien fait ?» Parce que le lieu, c'est des grilles, c'est des haut-parleurs, c'est des personnes en uniforme. La symbolique...
Oui, c'est concrètement la situation d'une prison avec peut-être un peu plus de liberté, si on peut dire ça comme ça, à l'intérieur même.
À l'intérieur, sur le droit de visite, mais le vécu, en tout cas, c'est un peu le même. Pour les femmes, c'est très différent en fait. Il y a certaines femmes qui vont rester complètement prostrées et enfermées dans leur bâtiment en journée. Et donc du coup, nous sommes deux intervenantes femmes salariées.
Oui.
Donc le contact peut être plus aisé. Et souvent d'ailleurs, elles sont rassurées de nous voir, parce que ça reste un milieu quand même énormément d'hommes. Les infirmières, la plupart du temps, sont des femmes. Les agentes de la police aux frontières ont des équipes mixtes,
D'accord. Donc
c'est pas que des hommes, mais bon, le nombre de femmes au sein de la police même est aussi minoritaire. Donc c'est vrai que du coup, quand elles nous voient, c'est un peu la bouée, quoi.
D'accord.
Elle s'accroche un peu.
Elle se rattrape avec ça.
Voilà.
Et alors, justement, vous disiez que à Rennes, on peut enfermer des familles dans le centre de rétention. Donc c'était une promesse, je perds ma voix en même temps, électorale de François Hollande, de ne plus enfermer des familles dans les centres de rétention. À Rennes, concrètement, en 2013, il y a eu des familles placées.
C'est une promesse non tenue.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il y a... En fait, cette promesse, elle sort pas de nulle part. La France a été condamnée par la plus haute juridiction européenne, qui est la Cour européenne des droits de l'homme, qui a sanctionné, en fait, sur une décision de grande chambre, l'enfermement des enfants en centre de rétention, En l'espèce, il s'agissait du cas d'une famille moldave qui avait été enfermée en 2007 au centre de rétention de Rouen. Et en fait, en 2012, il y a eu une décision de la Cour européenne qui condamnait la France pour le dispositif actuel, enfin, tel qu'il était en vigueur en 2012. Donc il y a une circulaire qui est venue limiter le placement des enfants en rétention. D'accord. Mais faire une circulaire, c'est pas légiférer, c'est pas interdire. Ce qui fait que, comme vous le disiez, on a eu des familles encore en 2012, mais aussi en 2013.
D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres actions qui sont mises en place pour éviter ça ou...
Bah, ce que préconisent les directives européennes et la loi, c'est de privilégier ce qu'on appelle une assignation à résidence. Alors effectivement, il y a des assignations à résidence qui sont prononcées par les préfectures. Mais là, par exemple, pour 2013, j'ai en tête le cas de deux mères de famille mongoles interpellées à une semaine d'intervalle, et c'était des situations tout à fait similaires, c'est-à-dire c'était des mères de famille interpellées pas très loin de leur domicile. L'administration avait tout à fait connaissance de l'existence de ce domicile, avait tout à fait connaissance de l'existence d'enfants scolarisés, et néanmoins n'a pas hésité à prendre une décision d'enfermement contre la mère, au lieu de privilégier ce qui aurait pu être une assignation à résidence, et ce qui aurait pu permettre de protéger l'unité familiale et de ne pas exposer une mère séparée, seule et enfermée, tout en se posant la question de comment vivent ses enfants, ce genre de choses.
Très bien, alors vous avez compris, hein, le sujet est très complexe. Donc pour un éclairage sous l'angle féminin, vous pouvez évidemment lire le dossier d'IEG dans le numéro de décembre. Et nous continuerons évidemment de traiter le sujet sur iegmag.fr. Est-ce qu'il y a un site pour la CIMADE pour avoir toutes les infos et les événements à venir?
Ah oui, lacimade.org, où vous retrouvez toutes les infos nationales, toutes les différentes actions de plaidoyer sur lesquelles notre association est investie. Les différents champs d'action, comme je vous disais, qui sont très divers, que ce soit d'animation. Donc simplement la CIMADE, et là vous aurez le déroulé de toutes les différentes actions en région, mais aussi au niveau de la couverture nationale et les différentes campagnes en cours.
Très bien, et ben on retient la CIMADE. Merci beaucoup Charlotte Joyot d'être venue dans IEG Radio. Restez avec nous, on continue de parler de la situation des migrantes à Rennes à travers un angle différent. Ce sera celui d'une rennaise qui accueille chez elle des migrants et des migrantes. Mais avant, on vous laisse apprécier Crazy du groupe féminin. Au revoir Simone. We're either giving up or giving in. pièce de Au revoir Simone chante la folie des filles dans leur titre Crazy. En tout cas, elles mettent bien la pêche. Cette semaine, on dédie l'émission à notre dossier du mois de décembre sur les migrantes. Marie, aujourd'hui tu vas nous parler d'une femme, d'une Rennaise qui est assistante familiale depuis plus de 7 ans et qui loge et accompagne des migrants chez elle.
Eh oui Marine, je vais tenter de faire pour vous le portrait de cette femme courageuse et dévouée de 53 ans, assistante familiale agrémentée depuis 1995, qui accueille actuellement chez elle de jeunes étrangers originaires d'Albanie, du Congo et de Guinée. Il s'agit de Laetitia, bon son nom a été changé pour plus de discrétion. Elle les accompagne au quotidien, les inscrit à l'école, leur apprend le français, les écoute, leur explique les règles de vie en communauté, avec parfois d'ailleurs quelques difficultés. Le choc des cultures est le temps fort entre toutes les différentes nationalités qu'elle héberge. Un travail aux multiples fonctions qui demande beaucoup de temps et d'engagement et qu'elle exerce avec passion. Pour tout ce qui concerne leur démarche administrative, il faut savoir que c'est entre autres vers l'accueil des mineurs étrangers, l'AMI, que ces jeunes sont dirigés. Laetitia, elle, ne s'en occupe pas directement. Et puis notez également que lorsqu'ils arrivent, ils font également pour certains une demande auprès de l'Office française pour les réfugiés étrangers. Ça concerne donc les gens qu'hébergent Laetitia. On constate, et là je cite ses propres mots, une arrivée massive de mineurs isolés, étrangers depuis 2-3 ans, originaires principalement du Congo, avec d'un côté des enfants qui se sont débrouillés tout seuls pour venir en France, et de l'autre des enfants dont les parents ont payé des passeurs. Des situations complexes et douloureuses qu'elle gère en parlant énormément avec ces mineurs. C'est d'ailleurs ces échanges qui lui donnent envie de s'investir à 100% dans son métier. C'est en rencontrant une Parisienne assistante familiale que Laetitia a eu envie de faire cette profession. C'était un hasard, m'a-t-elle raconté lors d'une interview pour yegmag.fr, donc qui date de décembre. J'ai rencontré cette femme qui était en vacances avec des enfants de tout âge et de toutes les couleurs. Par curiosité, je me suis approchée d'elle. Elle m'a parlé de son métier d'assistante familiale et j'ai trouvé ça super. Voilà, c'est ce qu'elle m'a donc raconté. À l'époque, Laetitia travaillait à Rennes 2 comme polyvalente. Elle s'occupait des inscriptions, de la bibliothèque, donc rien à voir, mais n'était pas vraiment épanouie dans son métier. J'avais envie d'autre chose et je lisais beaucoup sur la psychologie des enfants, m'a-t-elle confié. Et c'est cette rencontre avec cette femme qui a donc été le déclic. Elle s'est ensuite renseignée sur cette profession et a été acceptée. C'est un Français de 11 ans qui est arrivé le premier. Il est d'ailleurs resté jusqu'à l'âge de 18 ans dans la maison de Laetitia. Puis dès 2001, des nationalités différentes ont intégré le foyer. Une Camerounaise, pour commencer. Elle avait 17 ans et était menacée par le milieu de la prostitution. Un jour, elle est partie de chez nous et n'est jamais revenue, m'a-t-elle précisé. Elle a d'ailleurs déclaré sa disparition à la police et à sa hiérarchie, mais n'a jamais eu de nouvelles. Depuis, d'autres ont pris la place de cette Camerounaise et le soutien de Laetitia n'a pas faibli. Et pour cause, cette mère de famille s'investit énormément. Malgré tout, elle a quand même le sentiment que son rôle n'est pas assez reconnu. En définitive, on travaille à domicile 24 heures sur 24, en lien avec le Conseil Général, et nous sommes pourtant considérés comme le dernier maillon de la chaîne, m'a-t-elle déclaré. Il y a des évolutions, mais nous ne sommes pas encore assez écoutés. Son souhait, obtenir le statut de fonctionnaire, tout comme les éducateurs, un changement pour lequel elle se bat d'ailleurs régulièrement aux côtés de ses confrères, avec qui elle a fait de nombreuses et qu'elle continue de faire de nombreuses réunions pour faire évoluer leur situation.
Merci Marie, pas d'instant féministe cette semaine, mais c'est sans transition qu'on passe à l'agenda. Et tout de suite, l'agenda de la semaine avec toi, Marie.
Et oui, Marine, que se passe-t-il à Rennes du 18 au 25 décembre? Eh bien, notez que le dimanche 22 décembre à 17h, au Carré Sévigné, non pas à Rennes, mais à Cesson-Sévigné, sera joué les Serments indiscrets de Marivaux, avec entre autres Cécile Garcia-Fogel, Sabrina Kourougli et Marc Choupard, l'histoire de deux jeunes gens, Lucie et Dami, forcés de se marier, qui tombent amoureux malgré leur colère après la signature de leur contrat de mariage. Une histoire d'amour surprenante et touchante à découvrir donc au Carré Sévigné. Et puis notez également que le lendemain, le lundi 23 décembre à 16h et à 18h30, et puis le mardi 24 décembre à 10h30 au Théâtre de la Paillette, sera interprété « Sous les yeux de mon père » de Christelle Huneau et Denis Attimon, une pièce tout public sur les rapports parents-enfants, imaginée à travers le regard de Blanche, la petite fille de la famille Pelu, un mélange entre exposition et art vivant, selon la Paillette. Et puis côté exposition, notez également que jusqu'au 2 mars 2014, au Musée des Beaux-Arts de Rennes, est proposée une exposition très très belle, intitulée De Véronèse à Casanova, issue des différents musées de la région. Un parcours qui met en avant des peintures italiennes réalisées entre le 16e et le 18e siècle. Des conférences ou des visites guidées sont également programmées pour compléter la visite.
Eh ben, c'est un super programme.
Exactement.
L'émission se termine, mais vous pouvez continuer de suivre l'actualité rennaise et féminine sur le site de YEG, yegmag.fr, qui, on le rappelle, dédie le dossier du mois de décembre à la situation des migrantes dans la capitale bretonne. Merci beaucoup, Charlotte Joyeux, d'être venue aujourd'hui nous parler du rôle de la CIMADE auprès des ressortissants étrangers.
Merci à vous pour votre accueil.
À bientôt, et puis bon courage.
Merci.
Je remercie toute l'équipe de YEG Radio, Claude qui réalise cette émission, Marie Lelevier, prête pour les fêtes de fin d'année ?
Complètement.
Ok, c'est parti.
Le sapin est prêt, on y va.
Et oui, pas d'émission pendant les vacances, mais des rediffusions. On vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année. Merci à toutes et à tous. On se retrouve dans YEG Radio l'année prochaine. Donc, même jour, même heure, musique.